Frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour moi de vivre ce culte avec vous. Et donc j'aimerais partager à partir de cette lecture certaines vérités en rapport avec la thématique « Le changement, c'est maintenant ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes au courant de l'actualité, mais le précédent président de la République française avait choisi comme mot d'ordre de sa campagne « Le changement, c'est maintenant ». Le changement, c'est une thématique à la mode. Qui ne veut pas changer de vie ? Bien des gens pensent que la vie chrétienne, c'est un rafistolage ou un raccommodage de l'ancienne manière de vivre. Ce n'est pas du tout ce que l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament. Il nous dit en 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un vit en relation personnelle avec Dieu par Jésus, il est une nouvelle création. Toutes choses, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Une recréation. C'est de cela dont nous allons parler. Et dans le passage que nous avons lu, Paul, pour montrer en quoi consiste la vie nouvelle, il va d'abord nous montrer qu'est-ce qui caractérise l'ancienne manière de vivre. Quelqu'un qui raye Dieu de la carte, qui n'a rien à voir avec Jésus, comment vit-il ? Eh bien, Paul nous donne au moins 5-6 caractéristiques de cette ancienne manière de vivre. Et ensuite, il va nous montrer pourquoi le changement est possible. On appelle ça la théologie du changement. Et puis ensuite, d'une manière très pédagogique, concrète, pratique, il va nous montrer comment le changement doit se manifester dans le rapport à autrui et dans la vie de tous les jours. Donc, première partie, voyons qu'est-ce qui caractérise l'ancienne manière de vivre. Avant de connaître Jésus, qu'est-ce qui caractérise cette personne. Au verset 17, Paul dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Paul dit que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il a des pensées creuses. C'est vide de sens, des pensées vides de sens. Et la pensée dans l'Écriture, ça correspond au cœur. Le cœur, bibliquement parlant, c'est le quartier général de la personne. Le siège des facultés mentales et intellectuelles, le siège des émotions, le siège de la volonté, le siège de la conscience. Avoir des pensées vides de sens, c'est comme avoir un ordinateur qui n'a pas de processeur ou pas de carte mère. Deuxième caractéristique de l'ancienne manière de vivre, au verset 18, Paul dit « Ils ont l'intelligence obscurcie. » Il y a un voile sur leurs yeux qui les empêche de voir la vérité. Troisième caractéristique, Paul dit au verset 18 toujours, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et pour qui ce que Jésus a fait à la croix du calvaire ne fait aucune différence, c'est quelqu'un qui est un étranger pour Dieu. Dieu est un étranger pour lui et lui, il est un étranger pour Dieu. Vous est-il arrivé de vous trouver dans un pays étranger dont vous ne connaissez pas la langue ? C'est un peu frustrant. Si on n'a pas un traducteur dans son smartphone, on essaye de se faire comprendre avec les gestes, mais... Quatrième caractéristique d'une personne qui ne connaît pas Jésus, il ignore la vérité. Au verset 18, il dit « À cause de l'ignorance qui est en eux ». Il y a des vérités dont il importe de connaître l'existence. Et il y a des choses que... Si nous les ignorons, cela porte à de graves conséquences. Et ne pas connaître la vérité, c'est être dans l'erreur et dans la séduction du mensonge. Cinquième caractéristique, au verset 18, Paul dit « À cause de l'endurcissement de leur cœur ». Une personne qui ne connaît pas Jésus, elle a un cœur dur comme pierre. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne touche pas la personne de l'intérieur, parce qu'il y a un cœur dur, endurci. Et l'être humain est responsable de son endurcissement. La sixième caractéristique, au verset 19, Paul dit « La personne qui ne connaît pas Jésus, livrée à ses propres ressources, elle a perdu tout sentiment, elle se livre à la dissolution, c'est l'impureté morale, l'immoralité sexuelle, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Quand on ne connaît pas Jésus, on appelle mal ce que Dieu appelle bien. On appelle bien ce que Dieu appelle mal. On change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Et on change la douceur en amertume et l'amertume en douceur. Eh bien ça, c'est le prophète Ésaïe en Ésaïe 5, 20 qui, il y a 2600 ans déjà, le disait. Devant un tel tableau clinique, la question que vous allez me poser, et franchement, ça me fait plaisir que vous me la posiez, parce qu'au moins, je sens que vous me suivez et que vous m'écoutez. La question qu'il faut poser, c'est avec un tel tableau clinique, des pensées vides de sens, une intelligence obscurcie, et aliénée à la vie de Dieu, ou étranger à la vie de Dieu, ignorant la vérité, un cœur dur comme pierre, endurci, et le dérèglement moral, comment une telle personne qui présente un dossier moral et spirituel peut-elle prétendre à la vie nouvelle? Bonne nouvelle, l'apôtre Paul nous donne le secret. Comment une telle personne, descendant de Adam et de Ève, esclave de ses vices, de ses passions, de ses hormones, comment est-ce que cette personne peut être recréée, transformée et devenir, elle qui était l'objet de la colère de Dieu, un serviteur, un adorateur du Dieu vivant et vrai? C'est ce qu'on appelle la théologie du changement. Comment changer? Pourquoi et comment le changement est-il possible? Peut-être avez-vous remarqué dans notre lecture trois mots clés qu'il faut absolument retenir. Si vous retenez ces trois mots clés, je pense que vous avez rentabilisé votre déplacement en venant au cinéma, pardon, à l'église ce matin. Maintenant, pour rentabiliser le retour, il faut m'écouter jusqu'à la fin. Le premier mot, c'est le mot dépouillement, ou dans la version Bible du Semeur, au verset 22e, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Il y a l'idée de se dépouiller d'un vêtement sale. Le deuxième mot, c'est au verset 24, au début du verset 24, à vous revêtir de l'homme nouveau. Donc il y a le dépouillement d'un côté et il y a le revêtement de l'autre. Et puis le troisième mot clé à retenir, c'est au début du verset 23, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Pourquoi une personne peut-elle changer de vie? Et je dirais même, avant de changer de vie, changer de nature, changer de cœur. Dans notre église, nous avons une jeune femme haïtienne qui a étudié la médecine pendant 14 ans et aujourd'hui, elle est chirurgienne cardiaque. Elle fait des transplantations cardiaques. Je ne sais pas si vous avez rencontré une personne qui a bénéficié d'une transplantation cardiaque, mais il y a un avant, il y a un après. La puissance de l'Évangile, elle opère ce miracle de la transplantation cardiaque. Et pourquoi est-ce possible? Eh bien, premièrement, il y a le dépouillement. On se débarrasse de son ancienne manière de vivre, comme un vêtement sale que l'on quitte. Et puis, on est revêtu par la nature nouvelle du Christ. Et dans l'original, le terme de ces verbes qui désignent le dépouillement et le revêtement indique qu'il s'agit d'une action qui a eu lieu une fois pour toutes. Et là, on est en plein dans la théologie du baptême que Paul nous expose, entre autres, dans Romains 6, versets 2 à 4. Il dit que lorsque le Christ a été mis à mort sur la croix, Dieu m'a identifié au Christ. Lorsqu'il est mort, je suis mort avec lui. Mort au péché, mort à mon ancienne manière de vivre. Mon ancienne manière de vivre, c'est mon ex. Et puis, bonne nouvelle, le Christ, il est ressuscité. Et identifié au Christ dans sa résurrection, eh bien, j'ai revêtu la nouvelle nature du Christ. Le dépouillement, le revêtement, cela a eu lieu une fois pour toutes, mais doit se concrétiser en continu, pas seulement une fois par jour, mais c'est du 7 sur 24. Et le troisième mot-clé, c'est le renouvellement. Et dans l'Écriture, le temps du verbe, c'est un participe présent progressif qui indique une action continue, progressive, dans le temps, en permanence, nous sommes renouvelés par l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je me suis dépouillé de mon ancienne manière de vivre, je m'en suis débarrassé, j'ai tourné le dos à mon ancienne manière de vivre, et j'étais esclave de mes vices, de mes passions, de mes hormones. Et puis j'ai revêtu la nature nouvelle de Christ, où c'est Dieu qui m'a revêtu de cette nouvelle nature. Et uni au Christ dans sa mort, identifié au Christ dans sa résurrection, je suis renouvelé en continu et en permanence par l'action du Saint-Esprit. Ce qui fait que par la grâce de Dieu, je peux maintenant vivre une vie complètement nouvelle. La deuxième question que vous allez me poser, et franchement, ça me fait plaisir que vous me la posiez. Vous allez me dire, mais c'est bien joli tout ça, c'est la théologie, c'est la théorie, le dépouillement, le revêtement, le renouvellement. Mais la question à poser, c'est comment ça marche dans la pratique ? Comment ça marche dans la vie de tous les jours ? Et là, Dieu soit béni, l'apôtre Paul nous donne la réponse. À partir du chapitre 4 et du verset 25 jusqu'au chapitre 5, verset 20, Paul va mettre en évidence, je dirais, 9 antithèses ou 9 domaines concrets, pratiques, tirés de la vie de tous les jours. 9 domaines dans lesquels la vie nouvelle doit se manifester. D'une manière très pédagogique, Paul va dire la même chose tantôt d'une manière affirmative, tantôt d'une manière négative, pour bien enfoncer le clou. De plus, Paul, pour qui la véritable sainteté, ça ne se vit pas dans une tour d'ivoire, mais dans le rapport à autrui, va nous montrer que la vie nouvelle, elle se manifeste dans la manière dont j'entretiens des relations avec les autres. Et puis, parfois, Paul va invoquer un motif théologique pour lequel il nous enjoint, il nous exhorte à dire non aux œuvres de la chair qui nous tirent vers le bas et qui caractérisent l'ancienne manière de vivre, et dire oui à la marche par l'esprit qui nous tire vers le haut et qui manifeste cette vie nouvelle que Christ nous propose. Donc, vous l'avez compris, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, avant tout, dont la vie a été transformée. Il y a un avant et il y a un après. Si quelqu'un vit en relation étroite avec Dieu par Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Il est recréé. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et c'est aux œuvres qu'on reconnaît le chrétien. Et derrière, être membre du royaume de Dieu, se dire disciple de Jésus, un chrétien est appelé à être un petit Christ, ben il faut assurer le service après-vente. Et c'est un label qui doit se vérifier. Et vous savez, comme moi, aujourd'hui, la contrefaçon, elle existe dans tous les domaines. Mais venons-en au fait. Le premier domaine où la vie nouvelle doit se manifester, c'est dans la manière dont je communique avec mon prochain. Verset 25. C'est pourquoi je ne vais pas vous imposer un rappel de la grammaire française en ce beau dimanche matin, mais c'est pourquoi ça fait le lien avec ce qui précède. Paul vient de parler du dépouillement, il vient de parler du revêtement, il parle du renouvellement. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez le motif théologique ? Nous sommes membres les uns des autres. Pour Paul, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être clean. Dieu est le Dieu de la vérité. La Bible, la parole de Dieu, est la vérité. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Le membre du royaume de Dieu doit être caractérisé par la vérité et non pas par le mensonge. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être fiable, crédible. Jésus dit, son oui doit être un oui, son non doit être un non. Il doit être de parole. Et quand il s'engage, il doit assumer et tenir ses engagements. Donc, première caractéristique d'un membre du royaume dont la vie a été transformée, c'est qu'il marche dans la vérité. Vous savez, aujourd'hui, des gens qui marchent dans la vérité, ça se remarque, ça sort du lot. Des gens qui sont intègres. L'intégrité, ça ne paye peut-être pas à court terme, mais à plus long terme. Deuxième caractéristique de la vie nouvelle en Christ, nous dit Paul, s'exprime dans la manière dont je vais gérer mes émotions. Versets 26 et 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Vous avez remarqué que l'apôtre Paul, dans son réalisme très terre-à-terre, ne dit pas « un vrai chrétien, regardez-moi, ça ne se met jamais en colère. » Toujours zen, et toujours, il dit toujours à sa femme « oui chérie, tu as raison et je suis d'accord avec toi. » Le problème, c'est que la colère, nous sommes habitués à la version négative de la colère. Il y a des gens, quand ils entendent le mot « colère », Il détecte dans les airs des objets volants identifiés, peut-être les assiettes de la tante Hortense, peut-être avez-vous une tante qui s'appelle Hortense, ce n'est pas d'elle dont je parle. Et souvent, il y a des lumières rouges qui s'allument quand on entend... Parce que nous, les êtres humains, nous sommes trop souvent habitués à la version négative de la colère. Mais la colère est un attribut de Dieu qui s'est manifesté de façon magistrale à la croix de Jésus, où le péché de sa créature, qui a été imputé sur Jésus-Christ, eh bien Jésus a subi la colère de Dieu, du Dieu saint, que moi, que vous, nous méritions. Qu'est-ce qui déclenche la colère du Dieu saint ? C'est le péché de sa créature. Et nous devrions savoir nous mettre en colère pour ce qui déclenche la colère de Dieu. « Indignez-vous !» disait Stéphane Hessel. Il y a des silences des chrétiens ou de l'Église parfois dans l'histoire qui ont été coupables de l'indifférence, de la négligence, et c'est dramatique. Alors Paul dit que dans la vie nouvelle, nous devons apprendre à contrôler, à gérer nos émotions. Et puis, il nous exhorte que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il nous exhorte à résoudre nos problèmes de relations au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Trop souvent, nous pensons qu'avec le temps, ça va s'arranger. Eh bien non, c'est comme de l'infection. Laisser courir revient à laisser pourrir. Et puis, Dieu sait si on a du mal à trouver le sommeil quand on a un conflit ou un problème de relation non résolu. Et on dort mieux quand on a résolu son problème de relation ou de colère. Vous avez remarqué le motif théologique que l'apôtre invoque à la fin du verset 27 ? Ne donnez pas accès au diable. Un problème de relation non résolu, un état, une situation de colère non maîtrisée, mal gérée, ouvre la porte à l'adversaire et lui donne des droits pour charger la barque. Troisième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, au verset 28, Paul dit « Non au vol, oui à la bienfaisance, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Martin Luther, avec son brin d'humour bien à lui, disait que la dernière chose à convertir chez le chrétien, c'est son porte-monnaie. À partir du moment où l'enfant de Dieu, il délie les cordons de sa bourse, ne cherchez pas docteur, tout est converti. Imaginez quelqu'un avant de connaître Jésus qui était chapardeur, qui était voleur, qui était arnaqueur. Il rencontre Jésus, il met sa vie en ordre avec l'argent légitimement gagné à la sueur de son front et à la force de son poignet. Il met son amour en action et il vient au secours des démunis et de ceux qui vivent dans la précarité. Ne cherchez pas docteur, tout est converti chez cette personne-là. Il y a un avant, il y a un après. La vie nouvelle se manifeste dans la manière dont je déchaîne mon cœur, dans la manière dont je mets mon amour en action. Ça, c'est du concret, c'est du pratique. Par tes œuvres, tu démontres ta foi, dira l'apôtre Jacques. Quatrième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, c'est dans la manière dont je gère ce petit bout d'affaire que j'ai entre les deux maxillaires, qui ne pèse pas lourd, mais qui pourrait faire plus de dégâts qu'un kalachnikov dans les mains d'un terroriste des plus intégristes. Non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. Le livre des Proverbes, avec force réalisme, nous dit que l'imbécile, tant qu'il n'a rien dit, tout le monde le croit intelligent. Eh oui, mais c'est à partir du moment où il l'ouvre, ah oui d'accord, ok, on voit ce qui est à l'intérieur. On voit que la source, elle n'est pas clean, hein. Le livre des Proverbes nous dit encore que la vie ou la mort, elle est au pouvoir de la langue. Et Dieu sait si, en un instant d'inattention ou de méchanceté, avec notre langue, nous pouvons démolir ce qui a pris toute une vie à construire. Et il faut être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir contrôler ce petit bout d'affaire qu'on a entre les maxillaires. L'apôtre Jacques nous dit que celui qui arrive à contrôler sa langue, c'est un marqueur de la maturité spirituelle. Dis-moi comment tu parles, laisse-moi entendre ce qui sort de ta bouche et je te dirai si tu es avancé dans la vie chrétienne et si la vie nouvelle se manifeste comme il se doit. Et comment doit-elle se manifester, cette vie nouvelle? Eh bien, c'est en offrant des paroles valorisantes, significatives, bienfaisantes, constructives, édifiantes à l'endroit du prochain. Je pense que nous, les enfants de Dieu, il y a plusieurs choses qu'on a du mal à faire. C'est savoir offrir des paroles valorisantes, positives, bienfaisantes, quand elles sont méritées. Alors j'entends dire parfois dans certains milieux chrétiens, entre guillemets, « Oh frère, si on commence à dire merci au frère ou à la sœur, vous savez, la chair est faible et ils vont tomber dans l'orgueil. » Ben oui, mais en général, on n'hésite pas à balancer des tomates. Et en plus, elles sont pourries, on ne peut même pas les manger en salade. Moi, je dis merci à ma femme pour chaque repas qu'elle a préparé. Bon, mes enfants, ils exagèrent, ils disent « Oui, si maman n'était pas là, le papa, il mangerait du carton, on le retrouverait dans le caniveau. » Ils exagèrent. Mais moi, je trouve que les repas, ça prend tellement de temps à être préparé, c'est tellement vite avalé. Remarquez, c'est un peu comme un message. La question est de savoir qu'est-ce qu'il en reste après. Ça, je laisse le soin à cet auguste auditoire d'en décider. Mais offrir des paroles de bénédiction bienfaisantes et valorisantes. Si vous avez lu le livre de Gary Chapman, « Les langages de l'amour », tout le monde derrière le mot « amour » ne met pas le même contenu. Pour certains, ce sont des moments de qualité. Pour d'autres, ce sont des petits cadeaux. Pour d'autres, ce sont des services rendus. Pour d'autres, ce sont des gestes physiques. Et pour d'autres, ce sont des paroles valorisantes, significatives, qui font du bien. Cinquième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, au verset 31, et je lis jusqu'au verset 2 du chapitre 5, Paul nous dit que la vie nouvelle doit se manifester en disant non à la rancune et oui au pardon. Je pense que nous connaissons la théorie. Mais ce qui coûte cher souvent, vous savez, l'enseignement est gratuit, ce qui coûte cher souvent, c'est la mise en pratique. Verset 31, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, et vous remarquerez que sur l'échelle de Richter, on monte en puissance, que toute amertume, animosité, colère, clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. On a l'impression que l'apôtre utilise un langage chirurgical. Il y a une tumeur maligne qu'il faut absolument extraire, éradiquer. Soyez, au contraire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ce qui caractérise la vie nouvelle, c'est la grâce. La grâce de se savoir un pécheur pardonné et qui a compris que moi qui étais redevable envers Dieu d'une dette dont j'étais insolvable, eh bien que Dieu a effacé mon ardoise. Il a remis le compteur à zéro. Et cette dette dont j'étais redevable et que j'avais contractée, eh bien, quelqu'un d'autre l'a réglé à ma place. Quel amour ! Et cela doit nous toucher, et on doit se pincer pour dire, mais pourquoi moi ? Dieu m'a fait grâce, Dieu a pardonné mon péché. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théologie de l'imitation. Nous sommes appelés à imiter notre Père céleste. Tel père, tel fils, ne dit-on pas ? Un enfant de Dieu doit se comporter comme son Père. Dieu a été généreux dans le pardon qu'il offre et il a payé de sa personne. À notre tour, nous devons offrir ce même pardon et dire non à la rancune, à l'amertume, à la colère, à la méchanceté, à la volonté de vengeance. Alors je sais que cette théorie, on la connaît plus ou moins, mais le défi, c'est de la mettre en pratique. Donc, si on récapitule ce qu'on a vu pour l'instant, Paul dit que la vie nouvelle est possible parce qu'il y a eu le dépouillement, il y a eu le revêtement, et puis en permanence, il y a le renouvellement. Cela se manifeste par le fait que nous devons dire non au mensonge et oui à la vérité, non à la colère incontrôlée, oui à la colère positive, qui change les choses, et rappelez-vous de Jésus quand il a chassé les vendeurs du temple. Troisièmement, on doit dire non au vol, oui à la bienfaisance, non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. Cinquièmement, non à la rancune, oui au pardon. Et puis au chapitre 5, et j'y passe très rapidement, Paul va nous dire en sixième lieu que la vie nouvelle se manifeste en disant non à une conception débridée de la sexualité et oui à l'amour véritable, dans les versets 3 à 7. Et puis en septième lieu, Paul va nous dire que la vie nouvelle se manifeste en disant non aux œuvres des ténèbres et oui à la marche dans la lumière. Chapitre 5, versets 8 à 14. Et puis, huitièmement, Paul va dire la vie nouvelle se manifeste en disant non à la folie humaine, oui à la sagesse spirituelle. Versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voyez le motif théologique, car les jours sont mauvais. Quelqu'un a dit, dans une journée de 24 heures, il y a suffisamment de temps pour faire la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu. C'est assez culpabilisateur, comme je vous l'accorde. Quelqu'un a dit, savoir dire non à une opportunité pour dire oui à une priorité, ça demande beaucoup de maturité. Et manifestement, il faut être rempli du Saint-Esprit pour savoir à quoi dire oui, à quoi dire non. Je ne sais pas s'il vous est arrivé, le soir, par exemple, d'écrire sur une feuille de papier toutes les choses que vous devez faire le lendemain. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Alors, c'est bien de pouvoir faire ça, mais après, il faut hiérarchiser, prioriser, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ben, il faut s'y tenir. Paul dit que la vie nouvelle se manifeste dans le domaine dont nous gérons notre temps, nos loisirs, nos vacances, notre budget, nos émotions, notre vie personnelle, notre vie professionnelle. Savoir raison garder et ne pas être esclave et garder en ligne de mire les priorités, ben, c'est tout un art. Et Dieu sait si aujourd'hui, où les sollicitations viennent de tous bords, il faut vraiment du discernement. Et Paul dit au verset 17, « Comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Et puis, je termine par là, le neuvième domaine où la vie nouvelle doit se manifester. Eh bien, Paul va nous dire dans le verset 18, « Non à l'ivresse alcoolique, oui à la plénitude pneumatique. » Pneumatique. « Non à l'ivresse alcoolique, oui à la plénitude du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Remarquez, une personne sous l'emprise de l'alcool et une personne remplie du Saint-Esprit ont un point commun, je vous l'accorde. C'est que l'un comme l'autre ont envie de chanter. Seulement, ce n'est pas du tout la même chanson. D'un côté, il y en a un qui va chanter Écriture, hein, les beaux chants Écriture qu'on a chanté tout à l'heure, ou J'aime, 1, 2, 3 ou 4 ou je ne sais pas combien. Et de l'autre côté, comme on dit chez nous, il y en a qui vont chanter La Marseillaise en breton. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est rempli du Saint-Esprit? Quand on dit non à la chair et oui à la volonté de Dieu? Eh bien, Paul nous dit qu'il existe, il y a au moins quatre choses. Au verset 19, entretenez-vous, alors ce sont des impératifs, dans l'original ce sont des participes présents, vous entretenant par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Il y a l'idée que quand je suis rempli de l'Esprit, j'ai envie de retrouver les frères et les sœurs pour chanter dans la communion fraternelle, les louanges du Seigneur. Et j'observe ici, comme je l'ai observé dans mes récents voyages, un peu partout, après le confinement, la joie de retrouver les frères et les sœurs à l'église. Et Zoom, ça va, 5 minutes, enfin, ça va un certain temps, mais rien ne remplace la communion fraternelle, j'allais dire en chair et en os. Donc on a de la joie de retrouver les frères et les sœurs pour chanter ensemble les louanges du Seigneur. Deuxième chose qui se passe quand on est rempli du Saint-Esprit, au milieu du verset 19, « Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Le langage technique utilisé ici semble faire référence à un culte personnel où, tout seul dans ma salle de bain, je chante les louanges du Seigneur. Et même si je suis fâché avec la musique, même si je ne connais pas la différence entre un do et un fa dièse, je vais chanter de tout mon cœur. Je connais un jeune homme qui est maintenant dans la fleur de l'âge, qui est trisomique, et quand je le vois à l'église chanter les louanges de tout son cœur, mais je me dis, au sein de son handicap, il a une liberté que bien d'autres enfants de Dieu, n'ayant pas son handicap, dont ils ne jouissent pas. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu me donne un visage qui dit oui à la vie et qui dit merci Seigneur. Troisième domaine où la vie nouvelle se manifeste, justement au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quand je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu met dans mon cœur sa paix, sa joie. Il me donne un visage qui dit oui à la vie, et puis j'apprends à dire « Merci Seigneur ». Pour les petites choses de la vie comme pour les grandes choses, rien n'est dû, tout est grâce, tout est cadeau. Le simple privilège de faire ce que je fais avec mes doigts, Le pouce est opposable à tous les doigts de la main. Mes amis, c'est un lieu commun. Mais si vous vous cassez le poignet ou la main et vous rendez compte, « Ah, je ne peux plus faire ça » et malheureusement, parfois, il faut perdre l'usage de certains membres ou perdre la santé pour reprendre tout à nouveau conscience du privilège d'être en bonne santé et de pouvoir faire ça avec ses doigts. Savoir dire merci à Dieu pour toutes choses. Parce que Romains 8, 28 nous le dit bien, « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime ». Et puis enfin, la dernière chose qui se produit quand je suis rempli du Saint-Esprit, au verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Quand je suis rempli de l'Esprit, je trouve ma juste place dans mon rapport à autrui. Je ne cherche pas à être ce que Dieu ne m'appelle pas à être, mais je reste à ma place. Et la soumission mutuelle dans la crainte de Christ, trouver sa juste place dans son rapport à autrui, c'est le principe général que l'apôtre va détailler dans les versets qui suivent. Tous les hommes connaissent le verset suivant, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et toutes les femmes connaissent le verset qui dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église ». Ensuite, au chapitre 6, verset 1, Paul va dire « Enfants, obéissez à vos parents ». Pour autant, verset 4, « Père, n'irritez pas vos enfants ». Et puis, au verset suivant, Paul va parler aux employeurs et aux employés. Trouver sa place, sa juste place dans son rapport à autrui. Voilà. Eh bien, on en a fait du chemin. On a parlé de l'ancienne manière de vivre avant de connaître Jésus, ce qui caractérise le dossier d'une personne qui vit comme si Jésus-Christ n'a rien fait à la croix du calvaire pour elle. On a expliqué que pour avoir accès à la vie nouvelle en Christ, eh bien, il faut confesser ses péchés, il faut dire non à son ancienne manière de vivre. Mon ancienne manière de vivre, c'est mon ex. Il faut laisser Jésus entrer dans ma vie et changer mon cœur, me revêtir de sa nature nouvelle. Il y a le dépouillement, il y a le revêtement, et puis en continu, je suis renouvelé par l'action du Saint-Esprit. Et voilà ce qui fait que moi qui étais esclave de mes vices, de mes passions, de mes hormones, moi descendant de Adam et de Ève, je peux devenir un enfant de Dieu, un serviteur du Dieu vivant et vrai et un adorateur en esprit et en vérité. Et cela se manifeste dans toutes sortes de domaines. Et en terminant, laissez-moi vous poser quelques questions. Existe-t-il encore dans ma vie personnelle actuelle des traces de mon ancienne manière de vivre? Si le Seigneur devait me faire passer sur le champ un IRM gratuit et sans rendez-vous, qu'est-ce que cet IRM mettrait en évidence? Est-ce qu'on verrait des traces encore récidivantes de mon ancienne manière de vivre? Qu'est-ce que cet IRM montrerait, mettrait en lumière? Et comment y remédier concrètement? Et dans le souci de progresser, quels objectifs concrets et réalistes puis-je me fixer dans les différents domaines que nous avons survolés? Non au mensonge, oui à la vérité. Non à la colère négative et destructrice, oui à la colère positive qui fait avancer les choses dans la bonne direction. Non au vol, oui à la bienfaisance. Non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. Non à la rancune, oui au pardon. Et dans la mesure où je me laisse conduire par l'action du Saint-Esprit, eh bien, j'ai la paix de Dieu dans mon cœur, qui m'aide à chanter les louanges du Seigneur avec les frères et les sœurs, à adorer Dieu en esprit et en vérité, qui me donne un visage qui dit oui à la vie et une attitude de reconnaissance qui me pousse à dire merci Seigneur pour les petites choses comme pour les grandes choses. Et puis enfin, qui m'amène à trouver ma juste place dans mon rapport à autrui. Amen.